Les paractualités. Bonjour à vous toutes et vous tous. Nous sommes aujourd'hui le lundi 9 janvier 2017. C'est Clotilde Seille qui vous parle et qui vous souhaite la plus cordiale des bienvenues à l'émission Les Paractualités. Les titres aujourd'hui, autant que faire se peut, il faut éviter les urgences. Et puis on réclame des tables allongées dans les lieux publics pour la dignité des enfants handicapés. Étudiants en difficulté et en situation de handicap, le cégep de Victoriaville obtient une allocation supplémentaire. Et puis, 3744 km de marche pour le manque de soutien aux aidants naturels. Trottoirs et rues glacées en Colombie-Britannique, et ce depuis déjà pas mal de jours, voire de semaines. Alors les gens n'ont pas l'habitude et des personnes âgées et des handicapés, s'inquiètent. Élections au Rwanda, les bulletins seront aussi imprimés en braille. Deux entrevues aujourd'hui avec Samuel Fleurant-Beauchemin, président et fondateur de la fondation Le Pont vers l'autonomie. Et puis la gang à Rambrou, des habitués, avec Suzanne Beaulieu, la directrice, et Thierry Saint-Laurent qui nous parle d'un nouvel atelier. Alors oui, forte affluence à l'urgence, des citoyens invités à trouver des alternatives. En raison d'un taux d'achalandage particulièrement élevé, les citoyens sont invités à éviter si possible les urgences des hôpitaux Maisonneuve-Rosemont et Santa Cabrini à Montréal. Ça déborde toujours, a affirmé une réceptionniste de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont dimanche après-midi, lors d'un bref coup de fil donné par l'agence QMI. La situation ne s'est pas améliorée depuis vendredi, alors que le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux, le CIUS, avait invité les usagers à se tourner vers d'autres ressources afin de pouvoir consulter un professionnel de la santé. Les services de l'urgence sont toujours maintenus, mais sont réservés aux situations médicales graves. Des maires déplorent l'absence de tables allongées de format adulte dans les lieux publics du Québec, écrit Roxane Liouzon ce matin, dans le journal Métro. Alors, ce qui force ces mamans-là à changer les couches de leurs enfants handicapés sur le sol de toilettes publiques ou devant des étrangers. Elles demandent au gouvernement d'agir. Que ce soit au centre commercial, à une fête dans un centre communautaire ou à l'hôpital, la problématique est toujours la même pour la petite Sarah atteinte d'une maladie rare. Ma fille a juste 7 ans et on a deux options pour la changer. Le plancher de la toilette ou l'auto, a expliqué à Métro sa maman Stéphanie Leclerc qui habite à Québec. Cette situation fait en sorte que les quatre membres de sa famille ne peuvent pas rester longtemps ensemble à l'extérieur de leur domicile. Ce n'est pas juste négatif pour l'inclusion sociale de la petite, mais pour celle de toute la famille qui se trouve parfois séparée en deux pour permettre à notre autre enfant de profiter d'un événement, a déploré Mme Leclerc. Pour Nathalie Richard, pas question de changer David, son fils de 10 ans, atteint de paralysie cérébrale, sur un plancher de toilette publique. C'est dégueulasse. Souvent, les toilettes pour handicapés sont les plus sales, a commenté la résidente de Verdun. L'été, elle peut le faire dans la voiture, la porte ouverte. L'hiver, au centre commercial, elle s'installe sur des divans au milieu des corridors. Mais David ne se sent plus à l'aise d'être ainsi exposé au regard des passants. Aller à la toilette, c'est un besoin de base. Les personnes handicapées sont brimées dans leur dignité, considère Mme Richard. On ne devrait pas être pris dans son pipi ou être confiné à la maison parce qu'on ne peut pas aller aux toilettes. Pour faire bouger les choses au Québec, Mme Leclerc a déposé le 9 décembre une pétition à l'Assemblée nationale qui a récolté à ce jour plus de 600 signatures. Elle réclame la création d'un comité interministériel qui serait chargé de définir des standards de salles de changement et de déterminer quels bâtiments publics devraient être tenus de s'en doter. La ministre déléguée à la réadaptation, Lucie Charlebois, a de son côté fait savoir par la voix de son attaché de presse que le gouvernement était sensible à cette situation. Lorsque la pétition sera officiellement déposée à l'Assemblée nationale, nous y donnerons les suites appropriées, a écrit cette dernière, Bianca Boutin, par courriel. La première fois que j'ai entendu parler de ce garçon, je me suis dit, il faut à tout prix que nous l'invitions à l'émission Les Paractualités sur Canal M. On dit souvent que les jeunes n'ont pas d'idées et qu'ils ne savent pas quoi bâtir dans leur vie. Eh bien, Samuel Fleurant-Beauchemin, lui, il a trouvé et j'ai la chance de lui parler aujourd'hui par téléphone. Bonjour, Samuel.
Bonjour. ça va bien?
Ça va très, très bien. Et vous-même?
Très bien, merci.
Bon, Samuel, vous êtes le président de la Fondation Le Pont vers l'autonomie. Et vous avez 26 ans, hein, si je ne m'abuse, et la mission de cette fondation, si je ne me trompe pas, c'est de donner des bras robotisés à des gens qui en ont besoin.
C'est exactement. En fait, notre mission, c'est de permettre une plus grande autonomie, liberté au quotidien pour les personnes qui vivent avec des incapacités motrices sévères. Mmh. Donc, présentement, c'est principalement le bras robotisé Jaco qui est fabriqué par Kinova que nous, on offre aux personnes qui en ont besoin. Mais on n'est pas fermé pour le futur là, à développer de nouveaux programmes.
Qu'est-ce qui fait qu'un jeune garçon de 26 ans, parce qu'à 26 ans, hein, on s'entend qu'on est encore très jeune, qu'est-ce qui fait que, qu'un jeune comme vous consacre la majeure partie de son temps à cette fondation-là, Samuel Fleuron-Beauchemin?
Ça a commencé tout jeune, en fait, mais j'ai un frère qui a été touché par la dystrophie musculaire de Duchenne, donc... Okay. C'est ça, mon frère a perdu son autonomie là, graduellement tout au long de sa vie. Donc, nous, on était chanceux à la maison. Ben, malgré notre malchance, on a perdu notre papa, mais on avait des fonds pour que mon frère ne manque jamais de rien.
De rien. Bon.
Ouais, donc, puis quand le bras robotisé, mon frère est revenu de l'hôpital, puis il a dit hey, j'ai vu ça aujourd'hui, tout ça. J'ai fait waouh, t'en achètes un. Donc, c'est là que l'idée de la fondation est venue. Puis, finalement, plus tard, c'est devenu une passion pour la philanthropie et pour le don de soi. Donc,
Pas seulement son frère, mais les autres aussi.
Exactement.
Sauf que vous avez certainement eu besoin d'aide extérieure, Florent. Samuel, pardon.
Oui,
excusez-moi.
Oui. En fait, on a eu beaucoup d'aide au niveau des donateurs de la région, des mentors, des bénévoles. Puis, là, on est un petit peu partout au Québec. On a... On a remis 10 bras robotisés un petit peu partout au Québec depuis nos tout débuts.
Et vous visez combien en ce moment-là, par exemple pour 2017?
Bien là, on vise 10 autres personnes pour la prochaine année. Puis, donc voilà, on a comme 20 personnes en attente d'un bras robotisé, donc voilà.
Et puis, vous avez même été jusqu'à étudier, hein, je crois, en cours en gestion philanthropique?
Oui, c'est ça. Donc, à l'Université de Montréal en gestion philanthropique. Donc, apprendre les cadres, les normes, comment ramasser de l'argent, comment être efficace, comment bien redistribuer, puis comment bien gérer une fondation. Oui.
Comment il marche, ce bras robotisé-là, et qu'est-ce qu'il permet de faire aux personnes handicapées?
En fait, le bras robotisé s'installe directement sur le fauteuil roulant des personnes qui en ont besoin, qui est contrôlé par le même contrôle que la personne contrôle son fauteuil roulant. Donc, ça peut être par la tête, par la bouche, par le souffle, par les mains, par les doigts. Et puis, donc, c'est pas une prothèse, faut être bien clair, là.
D'accord.
Donc, c'est un bras robotique qui est fixé à la base du fauteuil roulant. Et puis, donc, c'est super simple d'utilisation. Là. Soit habituellement, là, ça prend 2-3 heures, puis les gens sont... En dedans de 2 heures, ils sont capables de boire seuls, là, donc...
Oui. Ah, c'est quand même fantastique. Et ça coûte combien? S'il fallait que les gens payent pour l'obtenir, ça leur coûterait combien, un bras comme ça?
Bien, directement auprès de la compagnie, directement, c'est 40 quelques mille dollars.
Ouf.
Nous, avec la fondation, on ramasse 50 000 dollars par bras robotisé pour être en mesure d'assurer le service, la mise en fonction, la formation, et puis subvenir aussi aux besoins de la fondation là, en général.
Donc, j'imagine que vous avez toujours besoin d'argent.
Hein?
Samuel, comment on fait pour...
bénévoles.
Bon, oui, alors comment on fait, par exemple, si on veut être bénévole, comment on fait si on veut vous donner de l'argent, on passe par où?
On peut passer directement par le site internet qui est soyezlepont.com.
Soyezlepont.com,
oui.
D'accord.
Soyezlepont.com, on peut faire un don en ligne. Si jamais il y en a qui voudraient être bénévole ou qui aimeraient, je sais qu'on est en train de mettre en place le formulaire de bénévole, je sais qu'il a été modifié, je crois qu'il n'est pas à jour. Donc, on peut communiquer directement à la fondation avec Google, on peut nous trouver très facilement. Donc, soit on nous appelle, soit on m'envoie un courriel à Samuel à Commercial Fondation.
PTPA.com. Excusez-moi, je vous ai coupé. Samuel
à Commercial Fondation.
Oui.
pva.com, donc comme pont vers autonomie.com.
D'accord, pva.com, parfait. Dites-moi, vous êtes situé où,
Nous, on est
Samuel?
situé à Victoriaville, notre
Oui.
école est à Victoriaville, mais on a plusieurs campagnes, on est un petit peu partout, là, Trois-Rivières, Drummondville, Sherbrooke,
D'accord.
Montréal, Repentigny,
Oui.
on va loin.
Et vous avez reçu un prix, hein, en 2016 pour récompenser tout ça?
J'en ai reçu deux, j'ai été chanceux. J'ai
Bravo.
reçu le prix coup de cœur des têtes d'affiche à Trois-Rivières, puis j'ai reçu l'hommage, le prix Excellence Jeunesse en philanthropie de l'Association des professionnels en gestion philanthropique. Donc, merci.
Eh bien, merci, merci à vous, Samuel Florent Beauchemin. Comme je le dis toujours, ce sont souvent les individus qui font avancer les choses, peut-être plus que les organisations étatiques. Alors, bravo, bravo, bravo à votre fondation, longue vie, et puissiez-vous en aider comme ça beaucoup plus.
Oui,
OK.
c'est juste un début, je suis tout jeune encore.
Eh bien, bravo, bravo, bravo.
Merci.
Alors, au plaisir de vous reparler. Et puis, bonne chance et bonne année et bon succès en 2017.
Ben, vraiment tous mes voeux et belle année à vous.
Merci, au revoir.
Bonne journée, bye.
Par actualité régionale, comme d'autres, le Cégep de Victoriaville décrochera une allocation supplémentaire d'un peu plus de 80 000 $ afin de mieux répondre à ses étudiants ayant des besoins particuliers et en situation de handicap. C'est d'après une nouvelle d'Hélène Ruel. Ces élèves peuvent représenter jusqu'à 20% de la clientèle collégiale si l'on inclut ceux qui ont par exemple un trouble du spectre de l'autisme, un trouble de déficit de l'attention ou l'un des troubles du groupe des DYS, comme la dyslexie ou la dysorthographie. Parmi ces 20% se trouveraient des élèves ayant ou non un diagnostic. Aux yeux de Christian Éon, plusieurs moyens existent pour soutenir les apprentissages des élèves. Il en parle comme d'accommodement et les compare aux lunettes qui améliorent la vision ou la canne qui assure les pas. Il donne l'exemple de ces logiciels qui permettent aux dyslexiques ou aux dysorthographiques de mieux comprendre la question posée. Déjà, le Cégep possède son département des services adaptés et a créé des lieux d'examen facilitant la concentration pour ceux qui en manquent. À Victoriaville, Christian Éon explique qu'une entente est intervenue avec les enseignants. 15 d'entre eux se réuniront d'abord pour recevoir de la formation et pour créer ce que M. Éon appelle un centre de soutien et d'échange de pratiques. Il parle d'une entreprise de co-construction requérant du travail individuel et du travail collectif des enseignants. Dans leur classe, les enseignants trouvent des moyens de faciliter les apprentissages de certains étudiants, des trucs dont ils peuvent faire profiter leurs collègues, soutient M. Éon. Il espère d'ailleurs que de leur côté, les collégiens ayant un trouble non diagnostiqué n'hésitent pas à manifester leurs besoins. Souvent, lorsqu'ils arrivent au cégep, ils veulent repartir à neuf et ils craignent d'être étiquetés. Cela reste le choix de l'étudiant, mais ce n'est pas une bonne chose. La dyslexie est invisible, mais elle peut handicaper. Et puis, rapidement, l'ultime défi de Jonathan Collin, 3 744 km de marche. Pour soutenir sa femme atteinte de cancer et dénoncer le manque de soutien que reçoivent les aidants naturels, Jonathan Collin s'est donné un ultime défi au mois de juin prochain. Il entamera la longue marche qui sépare Bromont de Banff en Alberta. L'ultime défi 2017, c'est un cri que je lance au gouvernement parce que les aidants naturels n'ont pas d'aide. On n'a pas de soutien, de dire Monsieur Jonathan Collin. Il y a des dizaines de personnes qui m'ont écrit et qui vivent la même chose que nous. On dit que les aidants naturels font économiser des millions de dollars, mais on est laissé totalement à nous-mêmes. On aime bien les entendre, les recevoir, parce qu'ils ont toujours beaucoup de belles et de bonnes idées pour les personnes handicapées. C'est la gang à Rambrou avec Suzanne Beaulieu, qui en est sa directrice, et puis Thierry Saint-Laurent, peut-être, qui est là en tant que chef d'atelier. C'est bien ça?
Oui, bonjour.
Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes là tous les deux. Parfait. Alors, je disais en préambule que la gang à Rambrou, c'est une gang qui est toujours pleine d'idées. Hein, c'est très, très innovant. On vous a déjà accueilli pour des expositions de peinture. C'était des œuvres qui avaient été faites par des personnes en difficulté intellectuelle. Aujourd'hui, vous nous parlez d'un nouveau projet. C'est le projet Arrière-Scène. Alors, d'où est venu ce projet-là? Quel est-il exactement? Qui parle? Madame Beaulieu, la
oui,
directrice?
Moi.
D'accord.
Oui. C'est un nouveau projet, dans le fond, qui entre dans sa... qui a 3 ans maintenant.
Mm-hmm.
C'est un projet qui, au départ, moi, j'étais préoccupée par les gens qui terminaient l'école et qui n'avaient plus aucune ressource
oui.
de jour.
Oui.
J'étais préoccupée aussi par les gens qui ont des intérêts en art, puis que les seules activités socio-professionnelles qu'ils retrouvaient sur le marché étaient plus de type industriel
mm-hmm.
ou service traiteur. Puis ceux qui voulaient travailler dans le monde des arts ne trouvaient pas leur place. Alors, c'est comme la gang à Rambo avait déjà sa marque de commerce au niveau des arts, on a décidé d'offrir un programme socio-professionnel.
Alors, quelle est la mission de ce programme-là exactement? Est-ce que c'est Thierry qui répond, Thierry
oui,
Saint-Laurent?
Oui, ça va être moi.
D'accord.
Dans le fond, la mission de ce programme-là en tant que tel, c'est de permettre à des personnes de 21 ans et plus qui ont une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme,
mm-hmm.
Dans le fond, d'acquérir puis d'expérience et une expertise dans plusieurs métiers qu'on offre. L'enseignement ici, dont la fabrication de costumes,
ah oui.
Apprendre de faire la fabrication de cadres de A à Z, des cadres de théâtre et de cinéma.
Oui.
Donc, c'est vraiment par rapport à ces médias-là qu'on exerce là, notre enseignement. Puis, ben la gang Rambrou en fait englobe tous ces projets-là. Et la mission de l'organisme de la gang Rambrou en tant que telle, c'est vraiment de permettre à des personnes avec une DI ou un TSA là, de vraiment développer, d'améliorer l'estime de soi, puis de promouvoir leur talent. C'est surtout ça, là, on est vraiment dans le milieu artistique.
Mais construire des décors, fabriquer des costumes, il faut que ça serve. Ce sera présenté où, par qui?
Ben nous, on a l'ambition de s'autofinancer par plusieurs projets, dont celui-là, les costumeries. On a une costumerie.
Mm-hmm.
Je vous dirais qu'on a des centaines et des centaines de costumes. On aimerait ça faire la location de ces costumes-là.
Ah, oui.
Par rapport au théâtre ou au décor, c'est vraiment la location. Si il y a une troupe de théâtre qui ont besoin là, de faire un décor pour une pièce, ben nous, on est là pour ça.
Ah oui, bien sûr.
Encadrement, ben ça, c'est vraiment tout le monde qui ont une peinture, qui ont une œuvre à encadrer.
Mm-hmm.
On est là vraiment là, pour tout le monde aussi. Fait que c'est vraiment de s'autofinancer par ces projets-là aussi.
Suzanne Beaulieu, voudriez-vous nous rappeler où vous êtes située, s'il vous plaît?
Oui, au 5615 Pierre de Coubertin, c'est à côté du métro L'Assomption.
D'accord.
C'est entre la rue L'Assomption et la rue Dixon.
Est-ce qu'il faut se rendre directement à vos bureaux si on veut justement profiter d'un service d'encadrement? Mais j'imagine qu'on peut on peut commander par Internet aussi.
Oui, vous pourriez commander par Internet. Ce serait plus simple, par contre, de prendre rendez-vous.
Okay,
d'appeler
d'accord.
au 438-333-4264,
d'accord.
prendre rendez-vous, arriver avec votre œuvre, votre photo, puis nous, vous, avec vous, on va choisir le passe-partout,
d'accord.
le type de vitre, le type de moulure que vous voulez avoir.
Bon, pour donner des cours, Thierry Saint-Laurent, vous qui êtes chef d'atelier de ce projet Arrière-Scène, ça prend des formateurs,
absolument.
Ça prend des bénévoles, est-ce que vous avez tout votre monde ou est-ce que vous en cherchez toujours?
On cherche toujours des bénévoles. On est très avare de bénévoles.
Oui.
Mais oui, c'est ça. Dans le fond, pour devenir bénévole, il s'agit de nous appeler ou nous contacter par courriel.
Mm-hmm.
On demande, c'est sûr qu'on va poser des questions, quels sont les champs d'expertise de la personne, les champs d'intérêt.
Mm-hmm.
Puis après ça, on va la diriger vers les bonnes activités là, où est-ce qu'elle pourrait faire du bénévolat.
Est-ce que, et ce sera ma dernière question pour aujourd'hui, peut-être vous l'avais-je déjà posée, mais ça fait rien, je réitère. L'art en tant qu'outil d'intégration sociale pour des jeunes comme ça, ça doit être terriblement efficace, non?
Oui, c'est efficace, mais ce que je vous dirais, ce qui est le plus efficace encore, c'est quand la personne, elle se retrouve dans ce qu'elle fait et qu'elle aime ce qu'elle fait.
Oui, oui.
Alors nous, on a des gens qui aiment les arts, et, fait, dans le fond, ils en mangent avec nous. Et parce qu'ils aiment ça, ben leur implication est vraiment très, très, très importante. Et puis,
bien
ils
sûr.
Apprennent plus rapidement. Ils apprennent dans le plaisir. Puis,
oui.
Ils font des choses qui... Puis, j'entendais hier Patrice Michaud à la télévision qui disait, quand je suis sur scène, je grandis. Ben c'est la même chose pour nos clients.
Ah,
quand,
oui.
Quand ils font des arts, ils grandissent.
Ah. Et est-ce qu'ils pourraient être amenés, puisqu'ils étudient tous ces métiers-là avec vous, est-ce qu'ils pourraient être amenés à rentrer comme travailleurs dans un contexte professionnel? Justement, moi, pourquoi pas un théâtre ou...
Oui, on le souhaiterait.
Bon.
Nos gens font de la musique aussi.
Oui.
On souhaite que la société évolue davantage pour leur faire une place.
Mm.
Au niveau des arts visuels, on a quelques personnes qui commencent à percer comme artistes et puis qui exposent dans des galeries.
Il y a même des CD déjà, hein?
Oui, on a un CD.
Un CD.
Aussi. Oui.
C'est ça.
Oui. C'est ça. Le vendredi, le 20 janvier,
oui.
Nous allons faire une ouverture officielle de notre boutique où le public en général va être invité à venir voir, puis à admirer, puis à acheter aussi les œuvres.
Les œuvres. Alors, CD.
On travaille aussi beaucoup en récupérant toutes sortes d'objets, puis en les transformant. Fait que c'est très beau ce qu'on fait.
Oui, c'est vrai. J'ai vu beaucoup de photos, d'ailleurs, que nous diffusons, que nous relayons via notre site sous l'onglet Nouvelles, je vous le précise.
Oui.
Et effectivement, c'est absolument magnifique ce que vous faites.
Mais je vous remercie beaucoup de nous donner cette presse-là.
Ça nous fait plaisir, Madame Beaulieu, et merci beaucoup à vous aussi, Monsieur Saint-Laurent, chef d'atelier donc du projet L'arrière-scène de la gang à Rambrou. On se reparle bientôt.
Merci. Ça
d'accord.
Fait plaisir.
Merci.
Au revoir.
Beaucoup. Au revoir.
Et oui, en Ouest, on est un petit peu moins habitué que chez nous. La plupart des résidents à Richmond ne doivent pas déneiger devant chez eux. Alors du coup, il y a des résidents frustrés à Richmond, en Colombie-Britannique, qui veulent que la ville revoie son règlement sur les trottoirs enneigés. Actuellement, rien n'oblige les propriétaires de maisons unifamiliales à déneiger devant chez eux. Le résident Arnold Cheng, qui se déplace en fauteuil roulant, a indiqué mercredi que la majorité de ses voisins n'ont pas dégagé la portion de trottoir devant leur propriété. Il souligne qu'après les chutes de neige et le froid persistant des dernières semaines, circuler sur les trottoirs est devenu impossible pour les personnes à mobilité réduite. C'est comme si la neige les emprisonnait à l'intérieur, soutient-il. Monsieur Cheng dit qu'il doit conduire à Vancouver pour faire ses courses puisque ça prend moins de temps que d'essayer de circuler sur les trottoirs à Richmond. D'autres citoyens ont exprimé leur frustration sur Twitter. La résidente de 22 ans, L.A. Lewis, a demandé à la ville comment elle peut laisser les trottoirs aussi glacés. Elle a ajouté qu'elle-même est tombée et qu'elle s'inquiète pour les personnes en fauteuil roulant et les aînés. Le porte-parole de la ville de Richmond, Ted Townsend, a affirmé mercredi que la réglementation sera révisée. Nous examinons toujours les réglementations pour voir si des améliorations sont requises. Nous évaluerons cette réglementation, mais il est trop tôt pour dire s'il y aura des changements, a-t-il précisé. M. Townsend a expliqué que la réglementation n'oblige pas que les propriétaires de résidences, n'oblige que les propriétaires de résidences commerciales et multifamiliales à déneiger. Mais il souligne que les propriétaires de maisons unifamiliales sont exemptés de la loi, parce que plusieurs d'entre eux, en particulier les personnes âgées, n'ont pas la capacité physique ou financière de dégager les trottoirs. Par actualité internationale, maintenant, on s'en va au Rwanda où les bulletins de vote seront en papier braille. On connaissait l'ingéniosité du système de vote gambien. Il faut désormais compter avec l'innovation du Rwanda en la matière. Le pays va intégrer pour la première fois de son histoire politique des bulletins pour permettre aux personnes malvoyantes de pouvoir exprimer leur vote. L'innovation est peut-être unique en Afrique et devrait permettre d'étendre le droit de vote à tous les citoyens rwandais. La Commission électorale nationale rwandaise, la NEC, c'est l'acronyme en anglais, a annoncé que pour la prochaine élection présidentielle prévue en août 2017, les aveugles et malvoyants du pays auront la possibilité de pouvoir voter avec des bulletins en braille. Pour cette élection, les malvoyants peuvent exprimer leur voix sans l'aide de personne grâce aux bulletins en papier braille. Ce sera la première fois que ce système sera utilisé dans des élections de ce pays. Auparavant, les personnes malvoyantes devaient s'appuyer sur l'aide de proches, amis ou responsables électoraux voyants qui votaient à leur place, a indiqué Charles Mounianeza, le secrétaire exécutif de la NEC. Il faut préciser que le nombre de déficients visuels est estimé à 177 000 personnes selon les chiffres de l'Office national rwandais en charge des personnes handicapées et malvoyantes, et qu'en outre, M. Mounianeza a expliqué que ce système permettrait d'éliminer les craintes que certains guides profitent de l'incapacité des électeurs malvoyants à voir ce qu'ils font pour manipuler leur vote. En rafale maintenant, l'ASAC est honorée d'être l'hôte de la 17e édition du tournoi invitation de Goalball de Montréal qui aura lieu les 27, 28 et 29 janvier 2017. Le tournoi se tiendra encore cette année au complexe récréatif Gadebois au 54-85 chemin Côte-Saint-Paul à Montréal. Cette année, 10 équipes masculines et 6 féminines prendront part à la compétition, dont une équipe féminine de l'Australie. Alors voici la liste des équipes chez les femmes, l'Alberta, l'Australie, l'Ontario, les États-Unis, la Nouvelle-Écosse et une deuxième équipe états-unienne chez les hommes, Alberta, Colombie-Britannique, Californie, Cyclone, Californie Crown, la Pennsylvanie aussi sera à l'honneur et aura une équipe pour la représenter, ainsi que New York, la ville de New York, la province de l'Ontario, celle de la Nouvelle-Écosse et du Québec, ainsi que le New Jersey. Alors, pour contacter, pour avoir un peu plus d'informations, il suffit peut-être simplement d'aller sur le site de l'ASAC, A-S-A-Q. Le Conseil canadien des aveugles de Longueuil vous invite à venir jouer aux quilles. Cette activité aura lieu tous les dimanches après-midi. C'est une saison d'hiver qui a débuté hier dimanche le 8 janvier et qui se terminera le dimanche 23 avril 2017. C'est-à-dire, ça représente 13 semaines régulières et 2 semaines pour les demi-finales et les finales au deuxième étage du salon de quilles du Club 300. Situé au 1626 boulevard Taschereau à Lemoine. Si vous désirez avoir plus d'informations, rendez-vous sur le site du Conseil canadien des aveugles de Longueuil, le CCAL. Voilà, ainsi s'achèvent les Paractualités en ce 9 janvier 2017. Je vous remercie de les avoir suivis. C'était Clotilde Seille au microphone ici sur les ondes de Canal M en studio du chic studio de notre bonne ville de Montréal. Et merci à mes camarades Jean-Sébastien Laliberté et Martin Forgue qui ont collaboré à cette édition du 9 janvier. Bonne journée, rendez-vous demain matin à 11h30.